RFI. Grand reportage.
Grand reportage vous emmène en Sibérie et là aussitôt vous pensez grands espaces et froid glacial. Ça n'est pas faux et pourtant chaque été les flammes ravagent les forêts de Sibérie et cette année avec le réchauffement climatique tous les records sont battus. Température extrêmement haute, destruction d'une ampleur inégalée, fumée jusque sur la calotte glaciaire de l'Arctique. C'est surtout le nord de cette région, parmi les plus froides du monde, qui a été touché. De quoi faire ressurgir au sud de la Sibérie, dans les forêts du lac Baïkal, de douloureux souvenirs. Incendie en Sibérie, la lutte sans fin, c'est un grand reportage d'Anissa El-Jabri.
Une vingtaine de maisons en bois verni nichées entre les sapins et un lac entouré de roseaux. Tout au bout d'un chemin de terre, c'est le paisible village de Tcherimouchki. Ici, à plusieurs dizaines de kilomètres sur des crêtes boisées au-dessus du lac Baïkal, on chasse, on pêche, on cultive son jardin.
J'ai des patates, des betteraves, des concombres et des tomates. En fruits, j'ai des prunes, des cerises griottes, des framboises et des cassis et des pommes aussi, des rainettes. Et ah oui, j'ai aussi deux pastèques en plus.
C'est Sergueï Fedorov en simple chemise à carreaux dehors par 4 degrés qui fait la visite, fier de ce qu'il cultive dès le printemps pour passer l'hiver. Mais en ce mois d'octobre, une pointe d'amertume perce dans sa voix. C'est que sa récolte 2021, il l'estime 40% plus basse que d'habitude. La faute, dit-il, à cet été pourri.
Ah, c'est sûr que pour savoir qu'il y avait des incendies en Yakoutie, au nord d'ici, pas besoin d'allumer la télé cet été. La fumée, elle est venue jusque chez nous. On l'a respirée pendant 3 semaines. En plein mois d'août, c'était presque la même météo qu'aujourd'hui. Le même ciel, tout gris, assombri par la fumée. Et il y a eu très peu de lumière pendant tous ces jours-là. Donc forcément, la récolte des fruits et des légumes de jardin a été mauvaise.
Ça ne change rien aux habitudes de Sergueï. La télévision allumée, dans sa cuisine, le retraité de 64 ans aux cheveux gris coupe des tomates, des pommes de terre, arrose le tout de mayonnaise. Voilà une salade pour ses invités. Dans les verres, de la liqueur maison, de l'eau de vie de cerise qu'il conserve dans une bouteille en plastique et sert généreusement. Deux verres avalés d'un trait, le voilà prêt à évoquer des étés cette fois terribles où les flammes ont menacé puis dévoré le village.
Les tout premiers incendies importants ici, c'est quand la taïga autour du village a brûlé. C'était en 2015, une année où il y a eu très peu de pluie, où tout était très sec. Avec les orages, la taïga s'est enflammée, le feu a pris à 20 km d'ici, et avec le vent, l'incendie est arrivé très vite. Personne n'aurait jamais pu imaginer une chose pareille. Il y avait des flocons de cendres gros comme ça qui tombaient du ciel, énormes, des flocons de cendres. Ça a duré comme ça pendant 4 semaines. Les oiseaux sont tous devenus fous. Plus un seul rayon de soleil, que de la fumée dans l'air, des vols d'oiseaux permanents dans tous les sens, et puis leurs cris. Il y a eu une migration importante d'animaux sauvages. Tous les animaux de la forêt se sont enfuis à toute vitesse.
Sergueï se resserre à boire, regarde dans le vague, puis raconte le pire 2 ans plus tard.
Tous les secours anti-incendie se trouvaient au centre du village, sur la rue principale. Ma maison est située sur le côté, je suis seul ici. J'ai jeté sur les flammes toute l'eau que j'avais. J'ai puisé toute l'eau du puits. Et je n'avais plus beaucoup de force pour me mouvoir et jeter de l'eau parce que j'ai dû respirer beaucoup de fumée. Je suis même tombé à genoux et j'ai prié Dieu. De toute façon, on n'aurait pas pu s'en sortir. L'incendie est arrivé du côté du lac où il y a des roseaux. Et quand ça a pris feu, l'incendie a immédiatement basculé sur le village. Il y avait un vent fort avec des rafales de 20 mètres par seconde. C'était vraiment énorme. 21 maisons ont brûlé ici. Tout est parti en 40 minutes.
21 maisons, dont la sienne. Sergueï a ensuite tout reconstruit de ses propres mains. Assis en silence sur le banc de la cuisine, Solbon Sandjev, le visage impassible, hoche la tête. Des histoires comme celle-là, à 41 ans, ce pompier volontaire en a tellement vu et entendu, c'est même la source de son engagement.
En 2015, ce que nous avons vécu avec les incendies ici dans le sud de la Sibérie, c'est la même chose que ce qui s'est passé dans le nord cet été. Tout le ciel était en fumée et personne n'a rien fait. On nous promettait d'éteindre, mais rien, vraiment rien n'était fait. Alors moi, j'ai lancé un appel aux bénévoles. Pourquoi ? Parce que c'est notre terre, c'est celle de nos ancêtres, la terre de mes parents. Et rester sans rien faire, ça, moralement, on n'a pas le droit.
Au volant de son 4x4 sur les virages en épingle à cheveux des routes de forêt qu'il connaît par cœur, Solbon Sandjev manœuvre avec aisance. Il croise des camions lourdement chargés de planches ou de simples troncs. En conduisant, l'ingénieur en bâtiment sourit en se souvenant de ses débuts de bénévole.
Les premiers jours, tout le monde nous disait « Vous, les bénévoles, vous êtes des amateurs, vous ne comprenez rien, laissez les professionnels travailler ». C'est vrai qu'à ce moment-là, on était de vrais débutants. Moi, je suis quand même venu aider à éteindre un incendie en basket et les mains vides. C'est vrai, franchement, il ne faut pas faire ça. Il faut des vêtements spécifiques, des chaussures résistantes à la température. D'ailleurs, ces fameuses baskets, elles ont brûlé. J'ai dû acheter de vraies bottes pour lutter contre les flammes. Les incendies, c'est très dangereux, on ne rigole pas avec ça.
Aujourd'hui, Solbon Sandjev est le président d'une association qui fédère 400 personnes, décroche des bourses et des financements de l'État, équipe les bénévoles, construit des liens avec les autorités. L'association dispense aussi des formations.
Les enfants, savez-vous qui sont les bénévoles et les volontaires? L'un d'entre vous a peut-être déjà été bénévole pour aider quelqu'un? Vous pouvez lever la main et témoigner de votre expérience?
Arunia Urbanova est enseignante, mère de famille. Ce matin-là, c'est avec sa casquette de pompier volontaire qu'elle vient donner dans l'école 56 d'Oulanoudé, un cours de prévention incendie.
Alors, je vous écoute.
Moi, j'ai aidé une grand-mère. Elle était très âgée. Je l'aidais pour le ménage.
Oui, ça aussi, c'est du bénévolat. Qui d'autre a fait des choses?
Moi, j'ai aidé ma grand-mère.
Et moi, j'ai fait nettoyer les déchets dans la campagne.
En 45 minutes ce matin-là, Arunia détaille son activité, donne des conseils simples sur comment prévenir et éteindre les incendies, tous les incendies. Les flammes spectaculaires de l'été, mais aussi celles sournoises qui couvent tout l'hiver et parfois se réveillent. En ce début d'automne en Sibérie, la toute première fine couche de neige se mêle au vert des sapins et aux feuilles orangées des bouleaux. Les flaques d'eau dégèlent encore en journée, mais le vent glacé souffle déjà très fort. Sous cette terre qui se prépare à l'hiver, sommeillent, parfois des années, des feux zombies. Ils peuvent surgir n'importe quand à la surface et s'enflammer. Ces feux souterrains, ce sont les feux de tourbière. Les maîtriser est une opération dangereuse. Elle peut prendre plusieurs jours et plusieurs nuits.
D'abord, on met de l'eau de façon à couvrir tout complètement. On mélange l'eau et la terre avec des pelles et on creuse partout, le plus profond possible. On a des capteurs avec des thermomètres, on les plante dans la terre et on vérifie régulièrement. Si la température est au-dessus des 60 ou 70 degrés, ça veut dire que ça brûle toujours et qu'il faut encore mélanger. Alors on remet de l'eau, on recommence. Concrètement, l'un d'entre nous arrose avec le tuyau d'incendie et deux ou trois autres creusent dans la terre et mélangent avec l'eau. Et une dernière personne vérifie avec la jauge que tout est éteint. Pourquoi l'administration n'éteint pas elle-même ces feux? Mais c'est parce qu'elle ne connaît pas tout à fait la technique pour le faire.
Par Pavel Nikonov a 71 ans. Il est retraité et vit depuis toujours à Zakaltous, un village d'une dizaine de maisons pimpantes, peintes en bleu clair ou en vert vif en tout cas. On les voit de loin, au milieu de la taïga. Zakaltous, mais aussi ses champs meurtris par les feux de tourbière.
Venez voir, ici c'est notre pâturage, à gauche. On va s'approcher de l'endroit où ça a brûlé. Regardez, ici, à 100 mètres, il y a encore des traces de feu. Et puis vous savez, le problème, ce n'est pas que l'incendie de tourbière. Après tout, avec le temps, tout repousse. Le plus grave, c'est qu'après, on a des plantes toxiques. Et c'est ça qui pousse. Et maintenant, c'est impossible de laisser du bétail, sinon les vaches mangent cette herbe toxique et meurent.
Dans sa tenue vert kaki de chasseur, face aux étendues blanches des champs, Pavel remâche sa colère. Car il en est sûr, quand la terre brûle, les humains, eux aussi, paient un lourd, très lourd tribut.
Sur les dangers de tout ça, moi, voilà ce que j'ai à dire. Tu te lèves le matin, tu sors et tu vois rien à cause des fumées, même pas ta propre grange. On a tous dû vivre dans ces conditions-là. Alors oui, évidemment, les maladies et les cancers sont apparus. Et dans ma famille, en 3 ans, 6 personnes sont mortes, 3 frères et 3 belles-sœurs. C'était justement au moment des pics d'incendie.
Véritable bombe climatique et danger pour les vivants, la tourbe, en brûlant, libère énormément de gaz carbonique, plus que les arbres d'une forêt. Ici, pas de statistiques sur les dégâts sur les hommes ou l'environnement, mais des observations empiriques régulières. À l'hôpital 6 d'Oulanoudé, Albina Jamindabayeva les connaît bien, les dégâts des flammes. Dans son bureau, au fond d'un couloir au carrelage clair, la pneumologue en chef détaille.
Quand il y a de forts incendies, que le temps est sec et très chaud, nous recevons un très grand nombre d'appels aux urgences de la part des malades cardiaques. Ils nous consultent pour des crises d'hypertension, pour des malaises, pour l'aggravation en général de leurs symptômes.
La fumée qui envahit pendant des semaines le ciel atteint aussi les yeux, la gorge, les poumons, a de graves conséquences sanitaires sur les moyens et longs termes.
L'exposition de longue durée provoque l'aggravation avant tout des maladies chroniques respiratoires, ainsi que des symptômes beaucoup plus forts pour les personnes ayant de l'asthme, des problèmes pulmonaires. C'est aussi le cas pour ceux qui ont des problèmes cardiaques. Et puis, une exposition de plusieurs semaines à des fumées toxiques et tous les cancérigènes qu'elles contiennent, ça peut mener à de nouvelles maladies comme la pneumopathie ou des cancers. Comme le système immunitaire s'affaiblit et parfois cède face à la force des fumées, le corps devient plus vulnérable à énormément de maladies.
La répétition des catastrophes inquiète pourtant désormais jusqu'à Moscou, à presque 6000 km de là. Parfois, un peu plus de moyens arrivent pour les services publics et notamment l'agence forestière de la région.
Nous sommes ici dans l'unité de gestion forestière Ivolginsky, c'est à une 30 kilomètres du centre-ville. C'est l'unité la plus proche d'Oulanoudé. Nous avons de l'équipement technique anti-incendie avec lequel les forestiers font notamment des travaux de prévention d'incendie, mais aussi les extinctions de feu. Ici, il y a du matériel ancien, c'est vrai, mais aussi du nouveau. Des équipements qui ont été renouvelés dans le cadre d'un projet national et d'un projet fédéral de la préservation des forêts. Tout cela, nous l'avons reçu au cours de ces 3 dernières années. Il y a beaucoup de machines différentes.
Olga Bikova est porte-parole de l'agence forestière régionale. Dans cet entrepôt sur de la terre battue, en automne, on entretient les véhicules, camions, tracteurs, bulldozers. Sergueï Souslov, forestier à l'uniforme vert et au bonnet de laine enfoncé jusqu'aux yeux, est particulièrement fier de ces machines.
На базе лесхоза находится техника, ну то есть бульдозера, трактора.
Ici, il y a plusieurs tracteurs avec des fonctions différentes. Celui-là, sur le devant, il a une grande pelle. C'est avec ça qu'on crée des chemins, mais aussi qu'on enlève les débris de la forêt. On fait le ménage, on avance et on commence à créer la route. Là, celui-là, il s'appelle le PKL 70. Il sert à combattre des incendies de forêt. Il permet de creuser des tranchées très profondes. Ça, on peut dire qu'il est fait pour ça, ce PKL 70. Il creuse le sol sur 2 mètres de largeur et met la terre sur les deux côtés. Comme ça, l'incendie ne peut plus progresser. C'est un tracteur construit à partir du char T-34. Oui, oui, le char de combat soviétique des années 40.
Ну вот трактор этот на базе Т-34 он у нас, на базе танка, да.
Il y a bien sûr l'action quand le feu se déclenche, il y a aussi la prévention.
Les forestiers font bien sûr des tours de surveillance régulière de la forêt, mais il y a également le monitoring aérien. Tous les jours, en été, à l'aide d'un avion ou d'hélicoptère, les spécialistes de la protection aérienne de la forêt font des survols et examinent tous les départs possibles de feu. Sur le territoire que nous surveillons ici, il y a aussi des caméras de surveillance qui ont été installées. Grâce à elles, on peut voir s'il y a de la fumée dans la forêt. Elles sont installées sur des tours très élevées. En ce moment, on en a 15. Et tous les ans, on augmente leur nombre pour être au courant d'un départ de feu le plus tôt possible.
15 caméras, un peu plus de 1000 personnes à l'agence forestière, le tout pour surveiller et protéger 27 millions d'hectares de ce petit bout de Sibérie. Ici, comme ailleurs, dans le Grand Est de la Russie, ils sont nombreux, les militants écologistes, à juger les moyens dérisoires. La faute, entre autres, à une décentralisation ratée. Alexei Yaroshenko est le responsable du département des forêts à Greenpeace Russie.
Il y a 15 ans, un nouveau code forestier de la Fédération de Russie a été mis en place. C'est la pire législation sur les forêts de toute l'histoire de la législation forestière en Russie. Ce code forestier a transmis la gestion des forêts aux régions. Les forêts appartiennent bien sûr toujours à la nation, mais ce sont les régions qui touchent l'argent fédéral de Moscou pour la protection et la surveillance. Sauf qu'il n'y a pas assez d'argent pour s'occuper correctement des forêts. Selon nos calculs, il faudrait environ 100 milliards de roubles par an, alors que les régions reçoivent un tiers de cette somme. En plus de ça, au niveau national, on essaie de tout contrôler très sévèrement. On exige une énorme quantité de papiers, d'attestations. Selon nos estimations, pour toute la paperasse, on dépense au final près de la moitié de l'argent qui est prévu pour la forêt. Franchement, il n'y a aucune loi aussi bête que le code forestier actuel.
Problème de financement, problème d'organisation, culture bureaucratique aussi, juge ce biologiste de formation.
Les fonctionnaires sont punis, pas pour ce qu'il se passe réellement dans les forêts, mais plutôt en fonction du contenu de leurs rapports. Si leurs rapports sont beaux, alors bravo. Si beaucoup de forêts a brûlé, mais que les chiffres sont bons, alors ce n'est pas grave. Le vrai problème, c'est l'inverse. Si peu de forêts a brûlé, mais que le rapport n'est pas bon ni positif, eh bien ça, c'est puni. Nous avons ici une sorte de dieu qui s'appelle le taux de l'année dernière. C'est-à-dire que si la situation se dégrade, on est puni. Si la situation ne se dégrade pas, tout le monde est content. La première réaction de beaucoup de nos dirigeants, quand ça commence à brûler, c'est de faire semblant, comme si ce n'était pas grave, comme si tout était sous contrôle. Résultat, la réaction aux incendies prend toujours du retard, quelques jours, voire quelques semaines parfois.
Au nord comme au sud de la Sibérie, l'hiver comme l'été, la question n'est pas de savoir si les incendies vont reprendre, mais quand. En attendant, dans cette région du Baïkal marquée par le retour du chamanisme, les rubans colorés noués aux branches des arbres par les prêtres ou les croyants volent dans le vent avec la poudre des premières neiges. Les chamans, eux, continuent leurs prières pour sauver la forêt.
Incendie en Sibérie, la lutte sans fin. Un grand reportage d'Anissel Jabri, réalisation Pauline Leduc.